L'émission d'En Jase sur les ondes de Boulevard 101, il est précisément 13h11. Pascal, j'ai une question pour toi. L'application, pognes-tu au Kilimanjaro?
Non, malheureusement.
Tu pourras pas nous écouter.
Non, puis honnêtement, c'est correct. Je pense que j'ai jamais eu dans ma vie là, une pause comme je vais avoir là.
En effet.
Dans toute ma vie. Je peux même pas utiliser les réseaux sociaux. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Je vais revenir à vide de t'entendre sur ce qui s'est passé dans ces semaines-là.
Exactement. Non, je te disais ça parce que tu sais que c'est le meilleur moyen de nous écouter, l'application.
Ben oui.
L'application Boulevard, si j'avais pu, App Store, Google Play Store.
J'aurais eu la curiosité d'y aller.
Fameux haut-parleur intelligent.
Exact. Puis là, en passant, dites BLVD. C'est ça. Si vous dites Boulevard, ça vous envoie aux États-Unis.
Oui, exactement. Fait que BLVD pour nous écouter. Puis à Montréal aussi, c'est une bonne façon de nous écouter, cette application-là. Puis on a des chroniqueurs de Montréal qui sont excellents. Et j'en nomme un, c'est Rémi Villemur qui est avec nous les mardis et jeudis aux alentours de 13h à chaque semaine. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien. Je pensais que Pascal allait être parti, puis là, ben, elle est encore là, fait que ça va encore mieux.
Ben, c'est ça, puis tu vas avoir le plaisir de lui parler jeudi aussi.
Oui.
À son dernier jour.
Oui, j'ai extensionné pour qu'on puisse se parler une deuxième fois cette semaine.
Exactement.
Après ça, c'est fini.
Rémi, gain pour la liberté d'expression, le fait que Jimmy Kimmel reprend l'antenne ce soir sur les ondes d'ABC?
Ben là, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Il y a des gens qui disent que c'est une décision économique. Moi, je retiens quand même que ça faisait l'affaire d'une certaine droite qui s'en aille. Donc, maintenant qu'il revient, mon interprétation, c'est que c'est une bonne chose, effectivement, pour la liberté d'expression. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai vraiment hâte qu'on sorte de ce cirque-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que on va en parler là, de Jimmy Kimmel, là, mais il y a un autre sujet qui est en filigrane, qui survole le sujet en soi, c'est l'idée même qu'on se préoccupe autant de politique intérieure, de faits divers, d'affaires américaines comme ça. On est vraiment dans une espèce de psychose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a tous fumé collectivement au Québec, là, mais il est temps qu'on en sorte. Mais Jimmy Kimmel, donc, c'est une bonne idée qu'il revienne, c'est une bonne affaire. Je pense que moi, qui suis plus associé à la droite, par exemple, pendant des années, j'ai vu des gens plus classés à droite être victimes de campagnes d'annulation, de censure, de campagne injuste en général sur le plan de l'image et du discours. Et je voyais certains de mes collègues, certaines personnes dans des fêtes, dans des lancements de livres qui me disaient « j'ai hâte que la gauche mange la claque ». Puis on voyait arriver la deuxième élection de Donald Trump comme sans doute une période de l'histoire durant laquelle la gauche allait manger la claque. Et moi, je ne sais pas de me draper d'une vertu qui était unique et exceptionnelle, mais j'ai toujours cru à la cohérence. J'ai toujours pensé que si on dénonçait quelque chose à gauche, il fallait faire la même chose avec la droite parce que sinon on allait se faire prendre, puis il n'y a rien comme se faire prendre à être incohérent. Et j'ai été vraiment déçu de voir des gens, ne pas prendre la défense à gauche de, par exemple... Jimmy Kimmel, ou à droite, de prendre la défense de Jimmy Kimmel, ça a été plus le cas. Là. J'ai entendu beaucoup de gens de droite dire « il était temps que quelqu'un paye comme ça ». Il faut toujours éviter ça.
Exactement. Il faut toujours éviter que des gens se fassent retirer leur micro, leur droit de parole, parce qu'ils ont des opinions politiques différentes. Qu'est-ce que tu crois que ça peut changer aux États-Unis, le retour de Jimmy Kimmel? Est-ce que ça va venir justement tempérer cette fameuse guerre droite-gauche, ou ça va juste faire en sorte qu'on va l'exposer davantage?
Bien, je pense qu'il va changer un petit peu sa stratégie. Là. On s'est mis à ne plus en parler assez rapidement, mais ce qu'il a dit le soir où ça lui a sans doute valu un congédiement très temporaire, c'était peut-être quelque chose qu'il n'osera pas répéter. Parce que ce soit une décision économique ou une décision là, philosophique de redonner la parole à quelqu'un à qui on l'avait retiré, c'est quand même parti du fait qu'il avait peut-être tenu des propos très divisifs à un moment même où on n'a pas besoin de ça aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui va changer sa stratégie, probablement. Puis, j'ai hâte de le voir aller. J'ai hâte de voir s'il va... Parce qu'il pourrait aussi décider de provoquer. Hein, il pourrait faire ça. Il pourrait décider de mettre encore plus de pression là-dessus.
Ça m'étonnerait qu'il le fasse, selon moi. Ça m'étonnerait qu'il le fasse, selon moi. Là, je pense que l'heure est justement rendue à la réconciliation un petit peu plus aux États-Unis.
Oui, mais les comiques, des fois, ils ont cette responsabilité-là. Puis je lui en voudrais pas. Hein. Je veux dire, Coluche en France faisait la blague de trop. Si des gens dans une société doivent pousser les limites de la liberté d'expression, ce sont bien les comiques. Alors, d'ailleurs, en passant, c'est drôle qu'on n'ait pas parlé du fait que c'est pas ce gars-là qui écrit ses textes. Hein. C'est plein d'auteurs en arrière de lui qui écrit. Non, mais c'est vrai.
Quel bon point!
Non, oui, c'est super organisé, les talk shows, surtout aux États-Unis. Ils collaborent bien souvent, mais je veux dire, des scripts, là, c'est payé. Il y en a dans certaines radios au Québec. Imaginez qu'aux États-Unis, c'est un métier en somme. C'est vrai qu'il y a payé pour eux.
Mais oui, tout à fait.
Mais,
en fait,
mais il est le visage d'eux, là, c'est normal. Là.
Ben oui, c'est ça, exactement. C'est lui qui doit tout assumer parce que ce que je vous annonce là, c'est pas tout le monde qui le sait. Là. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens dans ce milieu-là à un moment donné. Donc, je le sais qu'il doit, il y a une, toute une équipe d'auteurs, de scénaristes derrière lui. Donc, tu sais, c'est un peu absurde quand on y pense parce qu'il a payé un peu le prix de, voilà, de la blague qu'on lui avait écrite comme ça.
Puis il n'aurait pas dû payer pour ça. C'était pas, tu sais, il n'y avait pas de crime.
Non, il n'y avait pas de crime. C'était une blague, son affaire. T'sais, moi, je ne l'ai pas trouvé super drôle. J'ai trouvé maladroite. J'ai pas compris pourquoi il tenait bon d'aller dans cette direction-là. Mais quand on est pour la liberté d'expression, on est pour la liberté d'expression. C'est exigeant, ça fait mal. Des fois, ça nous coupe des amitiés, des relations, même conjugales. Mais c'est la vie. On est pour ou on est contre.
En effet, t'as entièrement raison. Je nous ramène à Montréal, Rémi, parce que je l'ai dit, tu résides là-bas et c'est le chant du cygne pour Valérie Plante avec la campagne électorale qui a commencé. Tu retiens quoi du leg de Valérie Plante? En entrevue à Novo, elle a dit « Moi, j'ai travaillé ces tuyaux. » Quand je parle à mes amis de Montréal, ils disent « Il y a beaucoup trop de pistes cyclables. » Toi, tu retiens quoi de son leg?
Je retiens un règne profondément idéologique. Je retiens aussi le règne d'une personne qui a préféré les coquetteries aux tâches administratives, les tâches qui sont plates, mais qui sont quand même celles d'un maire ou d'une mairesse. Je m'explique. On peut remarquer, par exemple, si on aime les vélos, elle a été une très bonne mairesse. Là. Il y a eu plein de pistes cyclables, elle a investi des centaines de millions là-dedans. Si on aime une ville verte, avec des parcs, avec de l'eau, avec des espaces pour jouer, pour se détendre. C'est une très bonne mairesse aussi. Mais le travail primordial, les premières tâches d'une mairesse, c'est la propreté, c'est la sécurité publique, c'est les routes. Et dans ces trois domaines-là, je veux dire, je vous annonce rien, là, c'est lamentable. C'est lamentable. Au niveau de la propreté, moi, je me promène dans certains quartiers. On a décidé de prendre les vidanges une fois sur deux, donc une semaine sur deux. Dans Hochelaga, dans l'Est où j'habite, encore à ce jour, c'est compliqué. L'été, il faut que tu aies toute une espèce de gestion en arrière sur ton balcon ou dans ton garage. Elle a décidé de faire ça pour des raisons idéologiques. Là. La preuve, ils sont revenus sur leur décision. Donc, c'était parce qu'on voulait devancer les citoyens qui ne sont pas prêts à ça, qui ne veulent de toute façon pas ça, qui ne sont pas prêts à adopter le compost comme manière de fonctionner dans une ville où il fait 45 degrés ressentis quand c'est le mois de juillet ou le mois de juin même, et même septembre. Donc, il y a eu beaucoup d'idéologie, il y a eu beaucoup d'idées. On n'a jamais autant parlé à Montréal d'inclusion que durant ces 8 années-là. Inclusion, inclusion, inclusion. Elle a créé un poste pour un commissaire au racisme systémique, une femme qui gagnait près de 200 000 $. Elle les gagne toujours d'ailleurs. Ce poste est toujours ouvert et existe à l'hôtel municipal. Donc, j'aurais préféré, moi je le dis souvent aux gens, j'étais pas d'accord avec son idéologie. Mais je l'aurais accepté, son idéologie, si toutes les tâches de base, et je l'ai dit, ce sont des tâches plates à administrer, elles avaient été assumées. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui se pètent la gueule en vélo dans des nids de poules. Il y a des gens qui poursuivent la ville parce qu'ils pognent ils rentrent dans des nids de poules et ils ne brisent pas juste leur suspension. Parce qu'il y a une règle à l'hôtel municipal, ça c'est fourrette, je ne sais pas si vous le saviez, là, mais l'année 2024, il y a eu 8000 réclamations d'automobilistes qui ont vu leur voiture être endommagée par des nids de poules.
OK, fait que là, ça donne à peu près 5 par jour.
À peu près. Et il y a eu juste 90 réclamations qui ont été acceptées. Pourquoi? Parce que dans les règles qui autorisent ou permettent à la ville de rembourser un automobiliste, il faut que la suspension ou les roues soient affectées. Mais si c'est quelque chose à l'intérieur du véhicule, là, on dit que ce n'est pas de notre faute. Mais je veux dire, c'est quand vous avez déjà pris un nid de poule là, solide, solide, solide. Là, des fois, vous dites, je pense que même le moteur a pris la claque.
Oh oui, tu le sens.
La ville de Montréal, ce n'est pas un motif de remboursement. Donc, on est allé vraiment très loin. Ça va faire du bien qu'elle s'en aille pour de vrai. Je le dis sans méchanceté. Elle a fait son temps. Et il y a une chose qui m'inquiète, c'est qu'elle dit, mon règne, il n'est pas visible encore. C'est dans 10 ans qu'on va pouvoir me juger. Ça, quand quelqu'un dit ça, là, c'est parce que c'est pas occupé des affaires courantes.
Ouais, ouais. Parce que j'espère que ça, c'est par rapport aux tuyaux là, dont elle parle, là, parce que c'est vrai qu'il peut être dans 10 ans les tuyaux. Mais ça, c'est une autre chose. J'ai l'impression que tu as dit. Tu as fait. Comment tu as dit ça? Elle a fait son possible. C'est ça que tu as dit?
Je pense. Ben, je sais pas.
Non, tu as dit. Elle a fait ce qu'elle pouvait. En tout cas, moi, tout ça pour. Elle a fait ce qu'elles sont possibles. Je pense que cette femme-là, elle a un attirail de charisme, elle a un attirail de possibilités de conversation, de communication. Elle souhaite réellement avoir une ville qui est bien dans l'intégration, dans le multiculturalisme, dans le partage des routes de toutes les manières. Mais je pense honnêtement qu'elle avait un petit peu trop de lunettes roses. C'était plus complexe pour elle gérer une aussi grosse municipalité. Tiens, je vais le dire comme ça, ville que Montréal, c'est énorme. À Québec, on le voit, les enjeux sont très difficiles. On parle souvent de la politique comme municipale comme étant plus facile, mais les enjeux sont tellement différents que ça peut être aussi complexe qu'au provincial et certainement plus qu'au fédéral. Je pense qu'elle a frappé ce mur-là, honnêtement. Lino Zambito écrivait il y a quelques heures « Bonsoir à tous, je fais un appel. Ça prend un candidat ou une candidate d'envergure pour la mairie de Montréal. Cette ville est sur le respirateur artificiel. Faut absolument changer notre vision, notre idéologie. Est-ce que tu penses qu'avec les candidats actuels, Montréal peut bien aller pour la suite en termes de politique municipale? »
Ben, ça va prendre de la foi, parce que Luc Rabouin, qui se présente pour Projet Montréal, qui est le candidat donc, de Projet Montréal, qui est pressenti pour l'emporter, ben, c'était le bras droit de Valérie Plante. Donc, pour moi, il n'y a rien de risqué dans le fait de dire que ça va être du pareil au même. Là, il y a beau des fois dire, écoutez, ça, c'était pas mon idée. Il a toujours été là, à côté d'elle. Soraya Martinez, pour moi, je veux dire, c'est Justin Trudeau. Là. C'était le règne de Justin Trudeau, donc c'est... Moi, par exemple, qui trouve que c'est important de faire de Montréal une ville francophone, une ville où on intègre bien les immigrants, mais pas où on adopte un modèle comme le multiculturalisme. Je suis obligé d'être un petit peu inquiet en la voyant arriver. Et sinon, ben, il n'y a pas de ces candidats-là que souhaite Lino Zambito, parce que ce travail-là, tu viens de le dire, Pascal, c'est un travail qui est difficile, qui est même peut-être ingrat. Hein? Valérie Plante, s'il y a une chose qu'elle a dite et que je pense qui est exacte, c'est quand elle a dit qu'elle était un paratonnerre. Donc, elle prenait toutes les critiques, puis ça venait de toutes parts, puis des fois, c'était pas de sa faute, puis elle savait que c'était vers elle que ça s'en venait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, même quand ils regardent le salaire, hein, un salaire, je pense que le salaire de la mairesse de Montréal, c'est à peu près 200 000 $, c'est un bon salaire quand même, ils se disent, moi, c'est pas vrai que je vais aller travailler 7 jours par semaine pendant 4 ans à me faire insulter, à recevoir des menaces, à ne pas être capable d'aller manger un déjeuner un dimanche avec ma gang dans un restaurant sans me faire regarder tout croche, me faire insulter. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, ça n'attire pas les candidats que souhaiteraient avoir Lino Zambito. Tu sais, ces gens-là, ils gagnent un bon salaire eux autres aussi. Et même s'ils gagnent moins, ils n'ont pas envie, pour la différence entre leur salaire et celui d'un maire de Montréal, de vivre avec tous les périls que je viens de vous décrire.
Ouais. Ils vont choisir la qualité de vie, clairement. Rémi, je termine avec ça. Est-ce que Montréal est en danger de façon économique? Parce que tu parlais beaucoup d'idéologie de gauche du côté de Valérie Plante. Je sens cette même idéologie chez les candidats à la mairie présentement. Est-ce que le développement économique de Montréal est en péril à l'heure actuelle?
Ben, j'ai parlé avec Greg Sauvé, là, qui est le troisième candidat là, vedette, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui... passé troisième dans la course hier, puis il me disait, il faut pas encore... Lui, c'est quelqu'un qui se classe très à gauche, puis il me disait, non, c'est pas encore le moment de s'inquiéter. La cote de crédit de Montréal est encore en bonne position. La vérité, c'est que si vous regardez le budget de la Ville de Montréal, qui en 2025 était de 7 milliards 280 millions, vous aviez 16 % du budget qui était au service de la dette. Ça veut dire que 16 sous chaque pièce servait à rembourser la dette et les intérêts sur la dette. Ça veut dire que... cet argent-là, normalement, si les finances étaient plus en ordre, ils iraient dans le transport, ils iraient en sécurité, ils iraient dans le nettoyage, dans le déneigement. Donc oui, je suis absolument inquiet pour l'économie de la Ville de Montréal. Il y a des très mauvaises décisions qui ont été prises. Il faudrait couper dans la bureaucratie. Montréal, c'est 103 conseillers municipaux et maires d'arrondissement. C'est à peu près 5 fois plus que Toronto, qui est une ville 3 fois plus nombreuse. C'est plus de 10 000 employés municipaux. Et il y a plus de 10 000 employés municipaux à Montréal qui gagnent 100 000 $ et plus. Donc, la solution est là et dans la bureaucratie.
Clairement, et si Montréal ne va pas bien, la province de Québec en entier n'ira pas bien parce qu'on a besoin d'une métropole en santé. Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir de te parler à chaque mardi et jeudi. On se parle jeudi prochain pour le dernier moment en onde de Pascal CV avant sa montée du Kilimanjaro.
Bye-bye à tous les deux.
Salut.
Salut Rémi. Rémi qui est toujours très, très, très intéressant. Tu sais comment je suis toujours en rivalité Québec-Montréal, moi, parce que je suis né dans les Nordiques ouais, contre
ça,
les Canadiens.
Ça vient de là, hein? Ça, c'est dans vos veines.
Mes crimes qu'il faut que Montréal soit en santé pour la province de Québec.
Bien, pour la province, pour nous aussi, pour nous aussi. Québec,
ah, oui.
Parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe, si on va chercher des alliés, autant interprovincial, bien, autant intermunicipal, mm-hmm. va nous falloir une force comme Montréal.
Exactement. On n'a pas le choix que Montréal soit en santé. Donc, on va souhaiter que la métropole se remette sur pied quand même assez rapidement. Pascal, après la pause, on va parler de Tylenol, autisme, Donald Trump. Avec Valérie Courchesne, une spécialiste justement recherchiste pour le CIUS du Centre Nord de l'île de Montréal et professeure à l'Université de Montréal. Et on va également avoir le bonheur de jaser avec Jenny Guilmette. Jenny Guilmette, sa fille Anaïs, est victime d'intimidation depuis la maternelle. On lui écrit sur les médias sociaux « Passe-toi la corde au cou ».
Ah non, ça fait pas de sens.
Elle veut nous sensibiliser là-dessus. Ça fait vraiment pas de sens. Alors, ce sera nos deux sujets de fin d'émission. Vous êtes à Boulevard 102 à l'émission « On en jase ». On en jase.